Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Le bouddhisme n'est pas une croyance, c'est un doute. Amis auditeurs, bonjour. Cette formule lapidaire de Chesterton pour définir le bouddhisme peut surprendre. Le bouddhisme, quatrième religion en France, apparaît pour certains comme un refuge à la crise spirituelle que connaît actuellement l'Occident. Français, même athées, restent en quête de spiritualité. Cela expliquerait peut-être pourquoi le bouddhisme a réussi à s'implanter partiellement en France. Selon l'Union bouddhiste, on estime à environ 1 million le nombre de bouddhistes en France, immigrés et français de souche confondus. Bien au-delà de la pratique religieuse, le bouddhisme a conquis la culture occidentale. On ne compte plus le nombre de jardins avec une statue de Bouddha dans sa pose magistrale. Tentons aujourd'hui de percer le mystère et l'énigme du bouddhisme. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame. Pour parler de cette fascination occidentale pour le bouddhisme, j'ai la joie d'accueillir Marion Duvauchel. Bonjour madame.
Bonjour.
Marion Duvauchel, vous êtes non seulement certifiée en lettres modernes et docteur en philosophie, mais également anthropologue et historienne des religions. Depuis 2009, vous vous êtes expatriée au Cambodge et vous écrivez en 2022 « Bouddhisme, chronique d'une illusion » aux éditions grégoriennes. Alors madame Duvauchel, pour recontextualiser cette vaste question du bouddhisme, pouvez-vous nous dire d'où naît le bouddhisme et quels sont ses grands principes ?
Le bouddhisme naît en Inde, du moins en tout cas toutes les traditions et tous les chercheurs sont d'accord. Il naît dans les contreforts de l'Himalaya. Donc il y a un jour un monsieur qu'on appelle Bouddha qui apparaît et qui va faire une expérience. Alors c'est la construction de cette histoire est complexe. Et donc, en fait, à un moment donné de notre histoire européenne, on arrive à un moment, on arrive à une élaboration sur laquelle tout le monde est d'accord, mais qui, de fait, n'a jamais été établie. C'est-à-dire que l'historicité du Bouddha n'a jamais été établie par le moindre fait. Trois siècles d'orientalisme. Donc ça, c'est l'un des premiers chapitres que j'ai développé dans l'un des premiers points que j'ai développé dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Bouddhisme, chronique d'une illusion ». Donc j'ai commencé par ça, par m'interroger sur comment est-ce qu'on en est arrivé à cette idée d'un prince, Siddhartha, qui un jour fait une espèce d'expérience traumatique. Alors il est élevé sous cloche pneumatique et puis un jour il découvre mystérieusement qu'il y a la mort, la maladie, la vieillesse, on appelle ça les quatre rencontres. Et puis la dernière rencontre, la quatrième, le sauve. C'est un bhikshu, on appelle ça un bhikshu, c'est-à-dire ces moines mendiants qui à l'époque se multipliaient en Inde. Il y avait une tradition ascétique très très ancienne en Inde. Et donc à ce moment-là, commence en quelque sorte son périple, sa quête, jusqu'au moment où il fait une expérience transformatrice, illuminatrice, qu'on appelle l'éveil, l'illumination. Et puis il va ensuite se mettre à partager ou à vouloir partager et à proposer une voie. Alors comment ensuite s'est établie sa doctrine ? Alors ça, c'est, je dirais, encore une autre chose, encore un autre point à établir et à développer.
Si vous deviez résumer quelques concepts du bouddhisme, et que fait le bouddhiste quand il pratique cette croyance ?
Alors, que fait le bouddhiste occidental ? Maintenant, que fait le bouddhiste ? Vous comprenez qu'il faut distinguer notre bouddhisme d'importation et puis le bouddhisme des bouddhistes. Je recommande à ceux que ça intéresse le livre de mon amie Marion d'Absence qui a écrit Le bouddhisme des bouddhistes. Et qu'est-ce qu'elle a étudié ? Elle a étudié les rituels. Et elle a étudié des rituels qui sont très clairement des rituels de magie noire, des rituels de sorcellerie. Or, tous ces rituels sont considérés comme des rituels tantristes, c'est-à-dire n'appartenant pas au bouddhisme. En réalité, dès le début, ça existe. Simplement, il se trouve que historiquement, comme s'est constituée notre histoire savante de cette religion, eh bien, il y a un homme qui a été extrêmement important, qui s'appelle Eugène Burnouf. Donc Eugène Burnouf, c'est en gros le fondateur de ce qu'on peut appeler la bouddhologie. C'est vraiment un très grand monsieur, très grand chercheur, très grand linguiste, un immense linguiste. Et c'est celui qui, en fait, va recevoir avec un autre grand chercheur des manuscrits qui sont envoyés par un certain Hodgson, qui est un ce qu'on appelle un civilian en poste au Népal, et il va se mettre à colliger les textes dans les monastères. Parce qu'il commence à s'intéresser à cette religion, il se dit, ben oui, mais comment la connaître? Donc, il va chercher des textes. Et ces textes, il les envoie à l'asiatique anglaise, et puis, avec une grande générosité, qu'il faut saluer, parce que ça n'a pas toujours été le cas avec les Anglais, eh bien, il les envoie aussi à la Société Asiatique de Paris. Il y a deux grands savants, Burnouf et l'autre, dont, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, et qui va mourir un an plus tard, très rapidement, d'une maladie des poumons, je ne sais plus très bien de quoi. Donc Burnouf va rester seul avec une montagne de manuscrits, et puis très peu de connaissances du sanskrit, parce que ce qu'on connaissait du sanskrit, c'était l'espèce de base grammaticale et lexicale qui avait été établie par les Anglais, en particulier Wilson, enfin qui sont un peu du côté anglais, les pères fondateurs. Donc il va faire un énorme travail, il va passer 3 ans à lire tout ça, et il va se mettre à traduire le livre du Lotus de la Bonne Loi. Voilà. Mais il va porter un jugement définitif, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle le tantrisme. Mais il dit non, ça ne peut pas faire partie du bouddhisme. C'est des espèces de superstitions complètement abracadabantes, c'est des pures élucubrations, puis c'est des rituels complètement absurdes. Et donc, il va y avoir un blackout sur tout ce qui appartient dès le départ au bouddhisme. Du coup, il va y avoir l'idée d'un bouddhisme primitif, qu'on va appeler ensuite le Theravada, et puis ensuite d'un bouddhisme un peu échevelé, vous voyez, avec tout plein d'un panthéon de démons, de divinités diverses, etc. Où, en fait, là, on va admettre, et le yoga tantra, bien sûr, on va admettre qu'il y a des rituels qui sont des rituels de sorcellerie et de magie noire. Alors qu'en fait, ces rituels appartiennent au bouddhisme dès l'origine.
On a un bouddhisme éthéré, si je puis dire, qui se développe en Europe. Et ensuite, comment est-ce que ça va se poursuivre au fil des siècles? Comment est-ce qu'on va avoir cette articulation entre ces deux formes de bouddhisme et ce bouddhisme qui se développe en Occident?
Il y a deux choses. Enfin, il faut distinguer deux choses. La manière dont un savoir s'élabore. Et ensuite, à un moment donné, ce savoir va être reçu en Europe, en Occident. Où est-il reçu d'abord? Dans une sphère universitaire. Vous voyez, ce sont des universitaires d'abord qui s'intéressent au bouddhisme. En fait, le petit peuple, il reste chrétien. À partir de quel moment est-ce que en France ou en Europe s'impose en quelque sorte cette espèce de bouddhisme d'importation? C'est lié depuis un siècle, en particulier un siècle et demi, au reflux du christianisme, à la déconsidération du christianisme, je crois, et puis surtout l'ignorance fondamentale de mille ans en diocèse chrétienne. C'est-à-dire un peu tout se passe comme si dans le bouddhisme, on avait là une espèce d'immense tradition, un trésor d'ascèse, de bien-être possible, etc. Mais du côté chrétien, on n'a rien. Il faudrait peut-être, de ce côté-là aussi, réajuster. Nous avons tout un patrimoine et un trésor d'expérience ascétique, voire mystique.
Dans mon introduction, j'évoquais le bouddhisme comme la quatrième religion en France. Mais est-ce que le bouddhisme est une religion?
Alors, on se bagarre beaucoup là-dessus. Je dirais que là, il faut, pour être un peu au clair, il faut regarder au niveau anthropologique. Parce que c'est là que les choses peuvent se mettre en place. Vous comprenez que la spiritualité, c'est bien gentil, mais enfin, on peut raconter aussi... On peut raconter plein de choses, enfin, tout un tas d'idioties liées à ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Par contre, l'anthropologie, on ne peut pas non plus toujours raconter de salade. Donc, en matière d'anthropologie, quand est-ce qu'on a une religion? Quand il y a l'existence d'une divinité, quel que soit le dieu, quel soit le nom qu'on lui donne, de quelque manière qu'on l'entrevoit, etc. Et donc, à partir du moment où il y a un dieu, une divinité, il y a l'idée d'une relation à cette divinité. Et que cette divinité, alors cette relation en particulier, une relation où on lui demande, on lui demande des tas de choses, et on fait un sacrifice, ou des sacrifices. Et donc il y a quelque chose qui s'appelle le sacrifice. Et le bouddhisme, quand il naît en quelque sorte, alors beaucoup, il y a des chercheurs qui contestent un peu, mais enfin, globalement quand même, on peut l'admettre, je crois, que le bouddhisme... établit une rupture par rapport au brahmanisme, à l'Inde des grands docteurs védiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacrifice. Il refuse et rejette l'idée de Dieu et il rejette évidemment l'idée de sacrifice.
Donc Bouddha n'est pas considéré comme un dieu dans le bouddhisme ?
Dans le bouddhisme, en tout cas, non. Le Bouddha ne s'est jamais considéré comme un dieu, ses disciples non plus, mais à un moment donné de son histoire, c'est-à-dire, il y a la marche du bouddhisme dans l'histoire, et pas uniquement en Occident, c'est-à-dire en Occident c'est tardif, mais il y a la marche dans l'histoire, c'est-à-dire à partir même du 5e ou 3e siècle, quel que soit, à partir du moment où il commence à avancer. Et quand il avance dans l'histoire, eh bien, à un moment donné, il est rejeté de l'Inde, 6e siècle. Au 6e siècle, les brahmanes commencent à se fâcher et à s'énerver. Pourquoi ? Parce qu'il y a des quantités de gens qui se rendent au bouddhisme. Parce qu'il y a des couvents, enfin, ou des temples. Il y a où des temples, ben, il y a des dons, des offrandes, etc. Donc il y a une concurrence économique. Et aussi une concurrence théologique, mais c'est surtout une concurrence économique. Donc les brahmanes vont persécuter. Les bouddhistes et les bouddhistes vont commencer leur marche évangélisatrice, ils vont sortir de l'Inde. Et donc là, ils vont en quelque sorte s'inculturer, si vous me permettez d'utiliser un terme qui nous appartient. Ben, ils vont s'inculturer, mais comme quand ils se repiquent dans une autre culture, évidemment, ils vont se repiquer avec des divinités qui existent, avec avec une anthropologie aussi, et avec donc, il va y avoir des transformations substantielles. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mis à un moment donné à distinguer le Mahayana et le Theravada, le Theravada étant une espèce de bouddhisme ancien lié à une forme des traditionnistes, hein, comme il y a dans l'islam, c'est-à-dire qu'il y a eu une succession. Dans le bouddhisme primitif, ils se sont un peu préoccupés de ça. Mais en fait, c'est très difficile de le. Il n'y a pas, comme dans la tradition catholique, un souci aussi grand de tradition apostolique.
Vous avez évoqué la marche de l'histoire du bouddhisme. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où on peut identifier une rencontre entre le christianisme et le bouddhisme ?
Oui, simplement, il n'y a pas beaucoup de recherches sur la question. Nous, avec quelques amis, quelques catholiques ou chrétiens qui s'intéressent à ces questions, on a fait l'hypothèse que c'est au Gandhara qu'il y a eu une rencontre, mais probablement qu'il y en a eu ailleurs. Mais au Gandhara, vraisemblablement, pour des raisons historiques, il y a vraiment de grandes probabilités pour qu'il y ait eu une communauté chrétienne fondée par saint Thomas, l'apôtre, et que donc... Eh bien, il n'y a aucune raison pour qu'une communauté bouddhiste ne s'intéresse pas à d'autres communautés qu'elle rencontre et puis qu'ils aillent causer. Alors, il y a aussi un autre vecteur de diffusion, c'est les caravanes. C'est la transmission tout au long des grandes routes commerciales, comme nous, on appelle les routes de la soie, il y a des gens qui sont bouddhistes, il y a des gens qui sont manichéens, alors à partir du 3e siècle en particulier. Il y a des bouddhistes qui rencontrent des chrétiens qui sont voire même des apôtres. On n'en sait rien, peut-être, mais ça n'a rien d'improbable. Absolument rien d'improbable. Les apôtres ont marché. Comment ils faisaient ? Alors nous, on connaît bien les voyages de saint Paul. Sept voyages, il y a je ne sais pas combien de naufrages, etc. Seulement, saint Paul, alors il a quelques voyages en Orient, hein, mais c'est surtout sur le bassin méditerranéen. Donc, le bassin méditerranéen, c'est des bateaux. D'ailleurs, on le sait dans les Actes, il prend le bateau à tel endroit, etc. Donc, c'est rapide. Il peut aller d'un endroit à l'autre, d'un port à l'autre, c'est relativement rapide. Tandis que quand vous regardez toute l'ère eurasiatique, mais c'est une immensité. C'est une immensité. Donc l'évangélisation ne peut pas se concevoir de l'autre côté de l'Euphrate comme on la conçoit dans le bassin méditerranéen.
Amis auditeurs, nous parlons du bouddhisme avec Marion Duvauchel et nous allons bientôt évoquer cette question de la fascination occidentale du bouddhisme. Restez bien avec nous, c'est l'heure de notre pause musicale.
Yeah.
amis auditeurs, vous venez d'écouter « Je veux voir Dieu » et nous sommes avec Marion Duvauchel, auteur du livre « Bouddhisme, chronique d'une illusion » aux éditions grégoriennes. Marion Duvauchel, j'aimerais approfondir avec vous la manière dont s'est implanté le bouddhisme en Europe et la manière dans laquelle nous voyons, nous, occidentaux, ce bouddhisme.
Alors, nous, on voit un bouddhisme qui est d'abord un bouddhisme d'importation, mais c'est aussi un bouddhisme qui est rêvé. Parce que quand on regarde les textes, attendez, il y a des kilomètres de littérature, les chercheurs eux-mêmes ne s'y retrouvent pas. Et par ailleurs, l'idée que l'on a en Europe ou en France du bouddhisme, c'est comme si le bouddhisme surgissait dans l'histoire ex nihilo. C'est-à-dire qu'il surgit, on ne sait pas de quoi, avec la personne du Bouddha. C'est-à-dire, c'est comme si la personne du Bouddha faisait émerger cette religion. Et on oublie, tout simplement, que le bouddhisme est une religion indienne. C'est-à-dire qu'en fait, il est enraciné dans ce qu'on appelle l'hindouisme. Donc alors, l'hindouisme, qu'est-ce que c'est ? L'hindouisme, c'est l'immense religion, un grand foutoir, quoi. Mais enfin, dans ce foutoir, on réussit à avoir deux grands pôles, c'est le shivaïsme, donc avec le dieu Shiva, et puis c'est le vishnouisme. Donc voilà. Alors, la religion de Shiva est une religion très noire. Hein. Il y a des textes qui sont des textes où l'on voit la pénétration du tantrisme dans le bouddhisme et où les rituels sont des rituels shivaïtes. Dans des rituels bouddhistes. Donc là, on ignore absolument tout en France de cette combinaison, en quelque sorte cette alliance entre le tantrisme et le bouddhisme. Alors que le tantrisme, c'est pas une religion en soi, mais c'est quelque chose qui est partout et dans toutes les dimensions religieuses de l'hindouisme. Donc ça, on n'en a absolument aucune idée. On n'a absolument aucune idée non plus que le bouddhisme, ce sont des rituels de possession, des rituels de transe, c'est-à-dire des rituels où on fait appel à des démons. Donc nous, on a cette espèce de construction et d'élaboration européenne, strictement européenne, et qui est construite par, en particulier, par les Français. Un certain nombre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont douté, par exemple, la réalité historique du Bouddha, mais il y a des gens qui ont douté. Paul Pelliot, dans sa préface au livre de Glasnap sur les religions de l'Inde, mais il le dit, il y a quand même beaucoup de princes dans le Bouddha, c'est un fils de prince, dans le jainisme, c'est un prince. Le premier qui va apporter à la Chine la doctrine bouddhiste, c'est un prince Parthe. Il dit, ça fait quand même dans cette doctrine du renoncement bien des hommes nés dans des palais, voyez, et qu'il y a lieu d'en douter. C'est-à-dire, en gros, il sème un peu le doute parce qu'il ne peut pas non plus aller complètement contre la doxa qui est en train de s'implanter. Donc, en France, on a cette doxa. Voilà, il y a ce Bouddha, cet homme merveilleux, etc., qui ouvre la voie. Mais quelle voie ? Enfin, tu veux dire, la voie octuple, qu'est-ce que c'est ? Donc, en France, qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a des méditations, ou alors on a des communautés qui sont des sectes. Et donc, avec des scandales qui ont eu lieu, en particulier autour des sectes tibétaines liées au Dalai Lama. Il y a eu des scandales pédophiles. Donc,
je rebondis sur ce que vous dites. Aujourd'hui, il y a une explosion des pratiques comme la méditation, oui, le yoga, avec cette recherche de paix intérieure. Quelle est la différence entre la paix intérieure des bouddhistes et la paix des catholiques ?
Ben, la paix est un fruit de l'Esprit-Saint. Mais pas seulement. Bien sûr, c'est un fruit de l'Esprit-Saint, parole inspirée, je la crois profondément, mais c'est aussi un fruit de nos actions droites. C'est-à-dire, c'est un fruit de la justice, en tant que cette justice, nous en sommes un peu responsables. Et bon, la justice, c'est pas une conception abstraite. Bien sûr, c'est Némésis, tout ce que vous voulez. Non, mais la justice, c'est aussi quelque chose qui est un ensemble, une possibilité de réalisation, qui n'existe pas dans le bouddhisme. Enfin, la notion de karma, c'est une notion en quelque sorte un peu autoréférente.
Est-ce que vous pouvez définir le karma ?
Attendez, juste une chose. Une des choses également qui, à mon avis, fascine les Français et les Européens en général, c'est que cette image, cette icône, cette idole, allons-y franchement, du Bouddha, est autoréférente. Eh bien, ça correspond très exactement à ce que nous cherchons actuellement, c'est-à-dire un homme, même plus une nature humaine, un homme autoréférent. Une auto-référence, c'est-à-dire on ne peut plus trouver ça, c'est-à-dire référence, c'est-à-dire entre guillemets, j'utilise le terme qui n'est pas forcément très approprié, mais ailleurs qu'en nous-mêmes. Ben, ça veut dire où ? Ben, soit on la cherche désespérément dans l'autre, donc dans l'amour de l'autre, etc. Ça fait des gens, ça fait des... Ben, ça fait Tristan Iseut, hein. Bon, ça fait des belles histoires. Ça fait ce romantisme passionné. Mais enfin, ça conduit et ça aboutit qu'au désastre de la passion d'une manière générale. Donc, ça, c'est une fascination qui est liée aussi à une sorte d'idéal, qui est un idéal qui est de plus en plus, comment dire, diffusé dans les esprits et partagé. Donc évidemment, le Bouddha et le bouddhisme sont la réponse à cette aspiration à l'autoréférence, à ne dépendre de personne, et en particulier à ne pas devoir son salut à un Dieu sauveur.
Vous avez évoqué la notion de karma qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le karma pour les bouddhistes et quelle est la différence avec ce que nous appelons karma ?
Oh ben nous, on le met un peu à toutes les sauces, y compris avec beaucoup d'humour, souvent. C'est karmique, etc. Moi-même, je l'utilise pour taquiner un peu mes amis. Mais comme je dis aussi, c'est freudien. Voyez, mais c'est vrai que ça perd sa substance. C'est-à-dire que le karma, dans le bouddhisme, c'est l'idée que il y a une espèce d'énergie mauvaise, et que cette énergie mauvaise, tant qu'elle n'a pas été liquidée, eh bien, on tourne indéfiniment dans la ronde du samsara. Et donc, et c'est pourquoi le Bouddha apparaît comme un être salvateur, puisqu'il est celui qui va permettre, aider, va montrer la voie pour sortir de cette espèce de ronde de la transmigration. C'est un enfer. Pourquoi ? Ben, c'est une ronde de l'enfermement. Donc c'est une figure de l'enfer. Alors, une autre chose qui est essentielle, je crois, qu'il faut comprendre et connaître, c'est que dans le bouddhisme, il n'y a pas l'idée d'une nature humaine telle que nous la concevons. Et donc ça, c'est important parce que nous concevons une nature humaine qui est une nature désirante, où le désir et la raison sont deux instances essentielles. Le bouddhisme détruit ces deux instances. Il ne les autorise pas, il faut détruire le désir. Et quant à la raison, elle est squeezée, puisqu'en fait, on a une spiritualité qui squeeze un peu tout l'usage et toute la sphère de la raison.
Dans le bouddhisme, on cherche à atteindre le nirvana, qui est un peu le paradis des bouddhistes. Quelle différence entre ce paradis bouddhiste et le paradis catholique ?
Ben, y a une très très grande différence. Hein. Alors, en plus, le paradis des bouddhistes, le nirvana des bouddhistes n'est pas un paradis. Ce n'est pas un paradis, le nirvana il ne faut pas confondre le ciel ce qu'on appelle le ciel des tushita, c'est-à-dire des satisfaits, des bienheureux, etc. Et puis le nirvana, qui est une espèce d'état. Mais c'est un état où on est libéré. Mais c'est un problème philosophique d'ailleurs, et c'est un problème pour la raison. C'est-à-dire que dans la tradition philosophique des religions de l'Inde, il n'y a pas de réalité logique du monde, il y a la maya. Et la Maya, c'est un voile de l'illusion. Il faut traverser ce voile. Mais derrière, de ce voile, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui ont dit ben, le nirvana, c'est du néant. Ben, ils avaient raison. Voilà.
Amis auditeurs, nous étions avec Marion Duvauchel, auteur de du bouddhisme, chronique d'une illusion aux éditions grégoriennes, paru en 2022. Marion Duvauchel, vous êtes également l'auteur d'un site internet qui s'appelle
Alternative philo lettres.
Voilà, avec un magnifique travail de philosophie, je vous encourage à aller le consulter, ce site. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité. Merci, c'est vous qui faites le succès de cette émission. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. D'ici là, bon courage et que la paix soit avec vous.